Bonjour à ceux que je n'ai pas pu saluer à mon arrivée. Béni soit le Seigneur qui, malgré les circonstances compliquées, permet que les lieux de culte soient ouverts et que, avec toutes les restrictions, mais aussi toute la sagesse que nous devons déployer, qui permet quand même que nous puissions être ensemble. Ceux qui ne sont pas ici, nous sommes avec vous. Nous savons que le même Seigneur, il est pleinement ici, il est pleinement avec vous, chez vous. J'ai eu à cœur, ces jours-ci, j'ai beaucoup pensé à ces « je suis » prononcés par Jésus-Christ. Je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde, je suis la porte des brebis, je suis le bon berger, je suis la résurrection et la vie, je suis le chemin, la vérité et la vie, je suis le vrai cep. Cet je suis. C'est quelque chose que j'ai depuis quelques mois, donc je suis en train de bien zoomer, regarder, nous allons partager aujourd'hui, je suis le chemin. Dans Jean chapitre 14, au verset 6, le Seigneur dit ceci. Voyez, c'est au cours de ce moment qu'il passe avec les disciples. Il sait qu'il va être arrêté. Il a pris beaucoup de temps pour leur parler, pour les rassurer, pour les encourager. Et donc, il dit ceci, 14:6, Jésus lui dit, il le dit à Thomas surtout, qui vient de dire, Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment en saurions-nous le chemin? Et au verset 6, Jésus lui dit, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il a dit trois choses, chemin, vérité, vie. Aujourd'hui, je voudrais me concentrer avec vous sur le chemin. Je suis le chemin. Vous voyez que, en un premier moment, c'est bon, on peut penser qu'il était en train de le dire pour lui, pour leur expliquer qu'il était, quelle importance il pouvait avoir pour eux. On peut avoir cette posture-là. Mais moi, je le prends sur cette dimension-ci, où surtout, ce n'est pas pour lui, mais c'est pour eux, et aujourd'hui pour nous. Il ne voulait pas, il n'était pas en train de démontrer ça. Sa grande importance est par rapport à notre salut, mais il était surtout en train de leur parler. Il voulait les rassurer. Il voulait leur donner quelque chose qui allait les aider à avancer malgré ce qui allait arriver. Et ce qui allait arriver était terrible. Aujourd'hui donc, j'allais vous demander de penser que c'est pour nous à titre personnel. Pour moi à titre personnel que le Seigneur veut me rappeler, veut vous rappeler. Je suis le chemin. Vous savez, pourquoi j'insiste là-dessus, c'est que le Seigneur, il a été humble. Et même il le dit dans la parole. À un certain moment, il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Non seulement il a prononcé, mais quand nous voyons comment il a œuvré, il n'a jamais été écrasant. Au contraire, tout puissant qu'il est, il s'est mis au niveau de ses disciples et de ce qu'il écoutait pour prendre le temps avec les mots qu'il pouvait comprendre pour vraiment les faire arriver à capter quelque chose de très important, à savoir le salut qu'il nous a porté et bien d'autres choses autour de ce salut. Donc, je tenais donc à ce que chacun se dise. Quand le Seigneur dit « Je suis le chemin », il veut me rappeler quelque chose. Il veut vous rappeler quelque chose à titre personnel. Cette histoire du chemin, parler du chemin, est bien ancienne. Même dans l'ancienne alliance, nous lisons assez souvent des moments où le Seigneur rappelait le chemin. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui te dira, voici le chemin, marchez-y. Ça, c'est Ésaïe qui le disait au peuple. Car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. Ça, c'est dans Ésaïe 30, 21. Le même Ésaïe, il redira plus tard, je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai dans des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortués en plaine. Voilà ce que je ferai et je ne les abandonnerai point. Il rassurait le peuple de la part de l'Éternel. Et l'Éternel aussi parlait par sa bouche, plus tard encore dans Ésaïe 48, verset 17. Ainsi parle l'Éternel ton Rédempteur, le Saint d'Israël, moi l'Éternel ton Dieu, je t'instruis pour ton bien, je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Donc vous voyez, c'est pour dire que ça, cette interpellation pour que le peuple de l'Éternel sache où est le chemin, que le Seigneur il a depuis même l'ancienne alliance, ce n'est pas seulement pour nous qui vivons la nouvelle alliance. Le chemin. Il n'a pas dit je suis un chemin. Je suis le chemin. Un seul chemin. Vous savez, vous avez déjà entendu les gens dire, mais tous les chemins mènent à Rome. Ça signifie donc je peux un peu vadrouiller un peu, je peux me perdre au lieu d'aller tout droit, je peux faire diagonale, voilà, voir quelque chose ici ou là et je me retrouverai au même point. Vous savez très bien que ça arrive. Moi, c'est une anecdote quand même, ça peut illustrer ceci où tous les chemins mènent au même point, où sur Amonville, j'ai mon parcours de marche. J'aimais marcher à certains moments et j'ai eu un parcours qui m'a fait à peu près 2 heures et je connaissais le chemin. Et c'était moi, je me suis dit, mais je vais piquer par cet autre chemin. Je sais très bien, logiquement, ça doit me ramener au même endroit. Et mais je suis allé, au lieu d'arriver sur Amonville, je me suis retrouvé à Pouvourville. Je me suis dit, une autre fois, je ferai plus attention. Je vous assure, les 2 autres fois, toujours je me suis égaré et jusqu'ici dans ma logique, je n'ai pas encore trouvé. Jusqu'au jour où nous avons marché avec mon épouse et un tout petit peu plus jeune que moi, il verra plus clair, je lui ai dit, on ira ensemble, je vais résoudre ce petit problème. Pourquoi ce chemin ne m'emmène pas à Amonville, m'emmène à Pouvourville. Voyez donc, tous les chemins ne mènent pas toujours à Rome. Ou alors, ce sont des chemins détournés. On a détourné, on a pris un autre chemin, on est arrivé à Ramonville, bien sûr. Mais nous savons que le Seigneur n'a pas prévu des voies de détour. Il a dit, je suis le chemin. Et c'est un chemin direct. Il y a des dérives quand même qui arrivent de plus en plus. Où, vous voyez, les religions se multiplient, les chrétiens, les évangéliques, il y a toujours de la diversité. On est souvent tenté d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Non pas que, vous savez, on peut bouger d'une église à l'autre. Si un jour j'allais vivre quelque part sur Auch, je me mettrais dans une église à Auch. Mais il y a quand même certaines choses où on pense que souvent l'herbe est plus verte ailleurs. Que donc, ça c'est pas, vous voyez, je le mets sur le concret de ce que nous vivons. On se dit, je peux donc essayer, faire plusieurs essais, on peut le faire, mais faisons attention aussi. L'important, plus profondément, dans toutes ces démarches, dans toutes ces réflexions, que je garde ceci, le cap, le chemin, c'est Jésus-Christ. La Bible nous incite à la prudence, puisqu'elle nous dit, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » C'est écrit dans Proverbe 14, verset 12. C'est bon dès le départ quand même de poser la chose, que ce chemin dont nous allons parler, comprendre ce qu'il a coûté au Seigneur. concentré de tout ça est dans un verset de la Bible. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça n'a pas été un chemin juste, facile, ça a été un chemin qui a coûté un prix le plus exorbitant qui ait jamais été. Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné Jésus-Christ, le chemin. Il savait que nous irions à droite ou à gauche. Il avait envoyé les prophètes. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il a envoyé des prophètes, les uns après les autres. Et il a vu que tout cela nous marchait de façon mitigée, si j'osais dire. Il fallait la solution, non pas une solution, mais la solution. Il fallait envoyer quelqu'un qui allait être vraiment le chemin. Le chemin donc qui nous mène au Seigneur, c'est seulement par Jésus-Christ. Ce chemin, il a été décrit de plusieurs manières. Par exemple, Jésus est venu pour nous diriger, diriger nos pas dans le chemin de la paix. Le chemin de la paix. Ça, c'est dans Luc 1, 79. Ailleurs, il est décrit que ceux qui sont sans Christ n'ont pas connu le chemin de la paix. En Jésus-Christ, nous trouvons le chemin de la paix. En dehors de lui, ils n'ont pas connu la paix. Il est parlé ailleurs du chemin droit. Le chemin droit que malheureusement certains chrétiens avaient quitté, c'est dans 2 Pierre 2,15, le chemin droit. Il y a d'autres chemins. Par rapport au Seigneur, à ceux qui veulent marcher comme le Seigneur veut, il y aura d'autres chemins. Ce chemin vont vadrouiller et vont conduire les gens ailleurs. Le seul chemin droit, le seul chemin de la paix, c'est Jésus-Christ. C'est bon aussi dès le départ quand même de se rappeler pour comprendre l'importance de ce chemin, ce que ce chemin a coûté. Il a coûté un chemin. Dans certaines églises, ils parlent de chemin de la croix, de chemin de croix. Il y a même, à certains moments à Pâques, certains endroits où voilà, on prend une croix et on fait tout un parcours qu'on appelle le chemin de croix. Mais donc, moi j'allais quand même vous rappeler, pensez, repensez, même quand vous serez chez vous, quelquefois reprenez la Bible et regardez son parcours, le parcours du sacrifice de Jésus. Il commence où ça commence à se corser? Ça commence au jardin de Gethsémané. Le parcours de Gethsémané jusqu'à Golgotha où il est crucifié, c'est un chemin. Pour nous ouvrir le chemin, il y a eu un chemin de douleur, un chemin de mort qui, heureusement, c'était mort, heureusement qu'elle a donné lieu à la résurrection de Jésus-Christ. N'oublions pas donc ce chemin. C'est bon quand même de repenser à ce prix, le prix du chemin, le chemin de la souffrance de Jésus-Christ. Mon âme est triste jusqu'à la mort. C'est qui l'a dit? Le Seigneur Jésus-Christ. Quand il est parti avec quelques-uns, restez ici, priez avec moi. Mon âme est triste à la mort. Une souffrance énorme, une tristesse énorme. On voit plus tard que des gens viennent l'appréhender. Vous voyez le Seigneur, le Créateur des cieux et de la terre, qui est lié. On le prend. On ne le laisse même pas marcher libre avec eux. Vous voyez quelque chose? Ce sont des choses où logiquement ça ne colle pas. Comment les gens avaient ramené tout un tas de soldats? Ils sont un groupe. Les disciples se sont enfuis. Il est tout seul. Il ne va pas leur échapper. Vous voyez logiquement, dans la logique, qu'est-ce qu'ils avaient à le lier? Et pourtant, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, il savait ce qu'il faisait en permettant qu'on le lie. Puisqu'il payait nos liens, les choses qui nous lient, des choses qui nous font esclaves de quelque chose. Il fallait qu'il les paye. Il a été lié. Et plus tard, troisième chose, troisième souffrance, il savait qu'ils allaient le crucifier. Mais pourquoi donc l'ont-ils frappé? Devant les sacrificateurs, on le voit se faire gifler. Devant Ponce Pilate, qui a eu, ne savait pas où laisser les pieds se mettre, qui savait quelque part, sa femme lui avait dit, et j'ai eu une vision quelque part, que cet homme est juste. Il le fait frapper, il le fait battre de verges. Le Seigneur a souffert dans son corps pour aussi payer nos souffrances, pour le prix de la délivrance de nos souffrances. Et bien sûr, plus tard, vous voyez le Seigneur Jésus qui est conduit pour être crucifié. Le chemin, il a été payé par un chemin de douleur et de souffrance et de mort, heureusement suivi de la résurrection de Jésus-Christ. C'est bon de se le rappeler. Pourquoi? Parce qu'il fallait quelque chose. Quand Christ est mort, vous savez bien que dans le temple, la séparation, il y avait un endroit où un seul être humain pouvait rentrer, le souverain sacrificateur, le lieu qui était très saint. Et nous savons que la Bible le dit, que quand Christ meurt, le voile, il se déchire. Personne ne le déchire. Il se déchire de haut en bas. C'était de bas en haut. On aurait dit peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'est arrangé pour le faire. Il se déchire de haut en bas. Façon de dire, là où c'était réservé à une seule personne, ouvrez le chemin. Ouvrez le chemin à tout le monde. À tous ceux qui veulent entendre la parole et la recevoir. Recevoir Jésus-Christ dans le cœur, ouvrez le chemin. Ils pourront aller jusqu'au lieu très saint. Ils pourront se prosterner directement devant le Seigneur et ils pourront le louer, ils pourront aussi l'entendre et recevoir de lui. Donc, c'est bon de rappeler que le chemin a été payé par un chemin de douleur, heureusement un chemin de douleur, dont l'issue a été la victoire merveilleuse. Christ n'est pas seulement mort, mais Christ est ressuscité d'entre les morts. Il a donc validé. La résurrection, c'est la validation suprême, parfaite, que le chemin qu'il est, c'est un chemin qui est opérationnel, c'est un chemin qui, quiconque y passe, aura cette vie, la vie pour laquelle il est mort. Il a donné sa vie pour que nous ayons la vie. Et le chemin de la vie, c'est celui-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Cela étant, la Bible dit que ce n'est pas un chemin large, ce n'est pas un chemin où on gambade. On pourrait se dire, mais comme il a payé cher, il peut être large. On peut se pavaner sur ce chemin. Si nous lisons dans Matthieu chapitre 7, 13, il est écrit ceci, Matthieu 7, verset 13, 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et nombreux sont ceux qui entrent par elle, car étroite est la porte, resserrée est le chemin qui mène à la vie, et peu nombreux sont ceux qui le trouvent. Peu nombreux sont ceux qui le trouvent. Le seul chemin. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Souvent, qu'est-ce que nous avons, vous savez, ceux qui se sont fait baptiser il y a beaucoup d'années, vous vous rappelez ces moments, parmi les moments les plus douloureux, où vous vous êtes rendu compte que vous étiez mal conduit, que je m'étais mal conduit, que j'avais chuté, que je m'étais trompé de chemin. je me suis retrouvé dans des endroits où je me suis dit là, regardez, tout d'un coup, je suis sale. Je suis trempé dans des choses où il ne fallait pas. Cette douleur, où est-ce que nous l'avons ramenée? Si nous étions restés à pleurer loin de celui qui était le chemin, nous n'aurions pas eu la solution. Nous avons ramené cette douleur et ces larmes devant celui qui est le chemin. Nous sommes prosternés devant lui. Nous lui avons avoué, Seigneur, j'ai fait ceci et cela. Je me suis perdu, j'ai raté le chemin. Je te demande, Seigneur, de me pardonner et de me remettre sur le chemin. Et il a fait, puisque la Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Qui qu'il soit, il se ramène avec une saleté extrême. Il y a la blancheur extrême dont le prix a été payé. Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Alléluia! Ça vous donne la joie, ça? C'est quelque chose que nous ne pouvons pas payer. C'est Dieu qui l'a payé. Et ça a été payé par le prix de la mort de son Fils. Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché, quel qu'il soit. Béni soit le Seigneur. Ce n'est pas un chemin où on gambade. C'est pour cela que le Seigneur, à plusieurs reprises, nous incite à être dans la sagesse, à être dans la mesure, à nous tenir devant lui. Il y a beaucoup de choix que nous devons faire. Une jeune fille, un jeune homme, à un certain moment, se dit, je suis en âge de me marier, comment je procède? On aura beaucoup de propositions autour. Comment va-t-on faire? Est-ce que c'est facile c'est des choix faciles à faire? L'un plus riche que l'autre, la plus amplitude des études plus que l'autre, il y a tellement de diversité autour de soi, comment va-t-on choisir? C'est bon d'inciter, puisque nous avons des jeunes parmi nous, ce n'est pas évident à certains moments, et ce n'est pas que vous les jeunes souvent vous disent que c'est plus compliqué que pour vous, à chaque âge vous verrez, il y aura ces complications. Comment va-t-on choisir le bon chemin, le bon choix? Comment je vais cheminer avec quelqu'un? Nous reviendrons toujours vers celui qui est le chemin. Quand il dit c'est le chemin pour tout type de choix. Tous les types de choix que nous avons à faire, il est le chemin, le seul, où nous aurons la véritable réponse. Le bon choix du conjoint, le bon choix de la conjointe, le bon choix de ce que l'on veut faire. Il y a plusieurs propositions dans tous les domaines. Le monde proposera beaucoup de choses. Comment allons-nous choisir? Recherchons le chemin, le Seigneur Jésus-Christ. C'est un privilège immense que d'avoir été mis en contact avec l'Évangile. Ce privilège immense, quand nous l'avons expérimenté, quand nous avons été là-dedans pendant beaucoup de temps, il nous arrive de nous tromper, d'oublier que c'est un chemin resserré. Il reste un chemin resserré, même pour nous qui avons été baptisés il y a des dizaines d'années, comme celui qui vient d'être baptisé il y a une année, le chemin ne s'élargit jamais de façon à pouvoir dire, là, je m'en mets à l'aise, là, je peux marcher comme ceci, comme cela, puisqu'il est toujours écrit que c'est un chemin étroit. Resserré est le chemin qui mène à la vie, et peu nombreux sont ceux qui le trouvent. Même quand nous sommes déjà en Jésus-Christ, souvent, nous allons nous tromper et dire que là, ça marche. Je suis en Jésus, là, ça marche. Oui, gloire au Seigneur Jésus-Christ pour ce qu'il a fait. Mais j'allais donc nous exhorter par rapport à celui qui est le chemin, nous exhorter à ceci, n'oublions jamais que dans les choix, je reviendrai me mettre à genoux devant celui qui est le chemin. Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu prévois pour moi? Tu me conduis vers quoi? Quel peut être mon rôle dans ton église locale où je suis? Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi? Je reviendrai vers celui qui est le chemin. Et celui qui est le chemin, pas à pas, va dévoiler les choses. Va vers là pour ceci. Un autre jour, va vers là pour ceci. Vous pourriez entendre un jour, arrêtez votre travail, vous allez me servir à temps complet. Un chemin merveilleux. Oui, Seigneur, je le fais. Ce n'est pas facile. Mais quand c'est le Seigneur qui parle, il inspire toute confiance. Il est le chemin, il sait ce qu'il dit, il sait ce qu'il va faire, il sait comment cette personne qui lâche tout et qui se donne au Seigneur pour le servir, comment il va vivre jour après jour, faire vivre sa famille en ayant lâché l'entreprise où il était, et les choses marcheront. Nous avons vu des serviteurs de Dieu qui sont intervenus devant nous, qui se sont succédés les uns après les autres, et nous pouvons dire que le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux, le Seigneur est digne de confiance. Ce qu'il a fait pour les autres, ce qu'il a fait pour vous aussi, que vous avez expérimenté, il continuera à le faire. C'est donc ce thème qui a jailli dans mon cœur, vraiment le chemin. Dans ces temps, si vous savez, dans ces temps de la fin, il y a beaucoup de cacophonie. Et on n'a encore rien vu. Vous voyez vous-même quelque chose se corse. Ce n'est pas que le coronavirus, nous espérons qu'il va passer. Mais vous savez très bien que dans ce monde aujourd'hui, de plus en plus, il y a cette idée de la liberté. La liberté, c'est bien que le monde, bien sûr, ait arrêté l'esclavage, ait arrêté les colonisations, ait arrêté bien des choses, qu'il y ait été promulgué les droits de l'homme, la liberté. Mais qu'est-ce que nous faisons de cette liberté? Cette liberté, elle est bonne, mais qu'est-ce qu'elle peut être aussi être dangereuse? C'est nous inciter à chacun, est-ce que nous avons le réflexe dans nos choix, le réflexe de revenir à celui qui est le chemin. Seigneur, je me mets entre tes mains, quelle voie je dois suivre? Comment je me comporte? Dans le groupe de travail où je suis, il se passe ici, je me comporte comment? Je m'y prends comment? Il y a des moments où ça peut être compliqué, il y a des moments où vous savez très bien que pour être dans une équipe de travail, on veut que, bien sûr qu'il y ait de la collégialité. Il y a des moments, vous l'avez vécu vous-même, moi aussi je l'ai vécu, où les gens veulent vous emmener dans des choses où vous vous sentirez mal, où ça ne correspond pas avec ce que déclare celui qui est le chemin. Ou ayant été là, ayant mangé avec les autres, ayant bavardé, ou arrivé chez vous, dites non, quelque chose ne croche pas, quelque chose cloche, quelque chose cloche, quelque chose cloche. Ça se dit comme cela. Donc, par celui qui est le chemin, celui qui est le chemin, j'allais terminer avec ceci, il est tellement merveilleux que il n'est pas seulement avec nous. Il n'est pas seulement avec nous. Il est au-dedans de notre personne. Alléluia. Il est venu vivre, il nous a tellement aimés aussi, nous a tellement compris que nous serions vulnérables dans ces choses. Il est venu vivre au-dedans de nous. Vous savez très bien que quand quelqu'un, le premier jour où vous avez ouvert votre cœur au Seigneur, où vous avez confessé vos péchés, et où vous avez cru que le sang de Jésus-Christ vous purifie de tous les péchés, vous êtes devenu une nouvelle créature. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'étiez pas parti vide. L'Esprit de Dieu est venu s'installer dans votre personne. C'est bon quand même de savoir rappeler qu'il n'y a pas un chrétien vide. Il y a, bien sûr, des étapes. Le jour où je donne mon cœur au Seigneur, où le Seigneur s'établit en moi. Mais en même temps, il faut que je lui laisse la place, qu'il remplisse, jusqu'à me baptiser dans le Saint-Esprit. Et le baptême dans le Saint-Esprit, ce n'est pas la fin. Il faut que je garde cette plénitude dans cette relation verticale entre moi et le Seigneur. Donc, où le Seigneur donc veut, c'est ça donc. Nous avons été convertis. Mais si j'oublie que la conversion elle-même, dans ses chemins déployés sur la face de la terre, si je m'arrête là, il peut y avoir un souci. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur a prévu, non seulement que l'Esprit Saint s'installe en moi quand je me convertis, mais en même temps que j'ouvrirai mon cœur, comme les disciples, Les disciples, vous savez, ceux qui avaient été avec Jésus, ils avaient quand même engrangé beaucoup de choses, mais le Seigneur leur a dit, vous ne partirez pas. Vous allez attendre que le Saint-Esprit descende sur vous, et quand vous en serez remplis, alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie, aux extrémités de la terre. Vous aurez quelque chose en vous qui vous rendra capable de faire ce que je veux. Que le Seigneur nous aide à ouvrir plus que jamais nos cœurs pour rester sur le chemin. Celui qui a tracé ce chemin par le prix dont j'ai parlé un peu, courtement, rapidement, il est là pour nous. Il est pour nous. Il est pour nous. Vous voyez, je le répète une troisième fois. Il nous est favorable. Il est de notre côté. Alléluia. C'est bon de le savoir. Que le Seigneur n'est pas là pour pointer le doigt. Souvent, je ne sais pas pourquoi ça m'est arrivé de le penser moi aussi dans le passé, avant d'avoir bien lu la Bible, que le Seigneur, on dirait, est en train de contrôler. Ce n'est pas un contrôleur, le Seigneur. Le Seigneur, il est de notre côté. Il nous est favorable. Il est pour nous. Il suffit que moi, si mon enfant, tu prenais le temps d'être avec moi, de te mettre à genoux et de me laisser travailler, de me laisser rentrer dans ta personne, tu verrais des choses. J'allais terminer donc par ça, en vous disant ceci. Prenons le temps devant le Seigneur, lui qui a tracé son chemin, pour nous assurer de rester sur le chemin et d'y œuvrer comme nous devons y œuvrer pour en ramener d'autres sur son chemin. Et rester sur le chemin jusqu'au bout, où nous verrons celui qui est le chemin. Tenons-nous devant le Seigneur, qu'il imprègne notre personne plus que jamais. Les temps sont mauvais, c'est la Bible qui le dit. Plus on s'approche de la fin, les temps sont mauvais. Mais même si les temps sont mauvais, celui qui se tiendra devant le Seigneur, il marchera. Il marchera droit. Il y passera au travers de ces choses. Et devant le Seigneur, le jour où il partira de cette terre, ou à la trompette, il se tiendra debout devant le Fils de l'homme. Se tenir debout devant le Fils de l'homme. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.